VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 11 août 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Arnold Godson. Tout d'abord les titres.
Au Congo-Brazzaville, le général Mokoko, candidat malheureux à la présidence, devant la cour d'appel de la capitale ce matin.
En Centrafrique, une épidémie de choléra a été signalée dans le sud-ouest du pays.
Au Burkina Faso, les autorités s'alarment de l'importation frauduleuse de viande de volaille impropre à la consommation.
L'ONU réclame l'accès aux régions Oromo et Amara après les affrontements violents du week-end dernier entre forces de l'ordre et manifestants.
Donald Trump récidive. Le candidat républicain a accusé le président Obama et sa rivale Hillary Clinton d'être les co-créateurs du groupe État islamique.
Et ne manquez pas notre journal des Jeux Olympiques ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Congo-Brazzaville, la chambre d'accusation de la cour d'appel ouvre ce matin le dossier de Jean-Marie Michel Mokoko avec plusieurs autres acteurs politiques du pays en détention. Le général Mokoko, arrêté le 16 juin 2016, est poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes de guerre. Des explications avec Nguelan Goussou, notre correspondant à Brazzaville.
Ce sera pour la première fois que le général Mokoko va être présenté publiquement devant un juge depuis son arrestation le 16 juin dernier. Cet ancien candidat à la présidentielle, officiellement arrivé troisième après Déli Sassou Nguesso et Guy-Brice Parfait-Kolela, est poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes de guerre. Des faits qu'a toujours rejeté maître Eric Yvan Ibwanga, l'un des avocats de l'officier congolais. L'affaire d'une vidéo qui circule à Brazzaville présentant le général en train de préparer un coup d'État en 2007 peut également surgir dans le dossier. L'audience qui s'ouvre ce jeudi matin à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Brazzaville aura également le mérite de présenter devant le public d'autres détenus. Anatole Limbongo Ngoka, Jean Gwabi ou Jacques Bananganzala, tous proches de Jean-Marie Michel Mokoko, sauront enfin ce que le parquet leur reproche. Mais eux ont toujours clamé être des détenus politiques. Nguelan Goussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Près de 7 millions de Zambiens ont commencé à voter jeudi pour élire leur président. Un scrutin à l'issue bien incertaine où deux hommes, le sortant Edgar Lungu et son principal opposant Hakainde Hichilema, sont favoris après une campagne marquée par plusieurs incidents violents. 9 candidats sont en lice dans ce scrutin qui devrait se résumer en remake du duel de l'an dernier entre M. Lungu du Front patriotique au pouvoir et M. Hichilema, un riche homme d'affaires autodidacte qui se présente sous la bannière du Parti uni pour le développement national.
En République centrafricaine, une épidémie de choléra a été détectée dans le sud-ouest du pays. Les précisions de Michel Joseph.
C'est la ministre centrafricaine de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Population, Mme Fernande Njembo, qui a annoncé la nouvelle lors d'un point de presse mercredi. Elle a fait le point de la situation en se référant aux résultats de laboratoire fournis par l'Institut Pasteur de Bangui. Parmi les 19 cas décelés en juillet à Ndjuku, préfecture de la Kémo, il y a eu 8 décès. Le 7 août dernier, de nouveaux cas ont été signalés dans l'Ombela Mpoko, puis un autre dans la capitale Bangui. Les autorités sanitaires centrafricaines ont lancé un appel à la population en l'exhortant à observer diverses mesures d'hygiène en vue de se prémunir du choléra.
Le Burkina Faso s'est alarmé hier de l'importation frauduleuse de viande de volaille impropre à la consommation provenant d'Europe, d'Asie, d'Amérique et de certains pays voisins. Nanit Talani nous donne les détails.
Le directeur de la santé publique vétérinaire du Burkina Faso, le docteur Adama Maïga, a déploré des importations sans aucune autorisation ni document de viande de volaille en provenance de divers pays d'Asie, d'Amérique et d'Europe, mais également de pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo ou le Bénin. Les règles veulent que la viande soit transportée à moins de 18 degrés. Or, nos commerçants transportent la viande dans des camions non conformes, non frigorifiques, à l'air libre, a déploré le médecin. Il soutient qu'en 2016, plus de 25 tonnes de viande de poulet ont été saisies. Or, depuis juillet 2013, un décret interdit l'importation sur le territoire national burkinabé de tout produit carné extra-africain. Cela concerne la viande de volaille, de mouton, de chèvre et toute autre viande. Au cours des dernières années, l'importation de la viande de poulet s'est intensifiée alors que le prix des volailles locales n'a cessé de grimper, oscillant entre 2000 francs CFA et 3000 francs CFA. La plupart des familles élèvent de la volaille dans ce pays pauvre enclavé d'Afrique de l'Ouest. L'élevage moderne ne représente que 30% des 40 millions de volailles que compte le Burkina.
Les Maliens sont appelés à élire le 20 novembre leur maire sur toute l'étendue du territoire national, 7 ans après les derniers scrutins communaux dans ce pays en proie à des troubles. C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement. La campagne électorale doit s'ouvrir le 4 novembre et prendre fin le 18 novembre, a-t-il poursuivi.
L'ONU demande instamment au gouvernement éthiopien de donner l'accès à des observateurs internationaux aux régions Oromo et Amara en Éthiopie. Ces régions ont été le théâtre le week-end dernier de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Samedi et dimanche, la répression brutale des manifestants antigouvernementaux par les forces de sécurité dans ces régions a fait au moins une centaine de morts parmi les manifestants, selon un bilan d'Amnesty International.
En Libye, les forces pro-gouvernementales disent avoir pris le contrôle du quartier général du groupe État islamique à Sirte. La nouvelle a été annoncée par les forces loyales au gouvernement d'Union nationale. Les États-Unis effectuent des frappes aériennes visant à chasser les djihadistes de la ville qui a servi de base aux opérations du groupe terroriste. Mais les officiels américains ont précisé hier que des troupes terrestres américaines n'étaient pas engagées directement dans les combats sur le terrain.
Des milliers d'ouvriers sud-africains ont entamé hier une grève dans les centrales électriques du fournisseur public Eskom pour demander une hausse de leur salaire. Ils défient ainsi une décision de justice interdisant ce débrayage. Les détails avec John Linden.
Selon l'Union nationale des ouvriers miniers, près de 15 000 travailleurs sont en grève à travers le pays. Hier, les travailleurs ont manifesté devant plusieurs centrales électriques dans la province du Mpumalanga, dans l'est du pays, assurant que leur mouvement continuerait jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Les grévistes réclament une hausse des 10% des salaires les plus bas, de 8,5% des revenus les plus élevés, de même qu'une allocation logement d'environ 200 euros. Le syndicat accuse en outre la compagnie d'électricité de mieux payer les employés blancs que leurs collègues noirs. Un système salarial de l'apartheid, indique un communiqué du syndicat. De son côté, Eskom propose une hausse comprise entre 7 et 9% et la compagnie assure que des négociations sont en cours pour mettre fin au mouvement social, ajoutant qu'aucune perturbation sur le réseau électrique n'avait été enregistrée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée russe a annoncé hier à Moscou qu'elle allait suspendre ses frappes chaque jour pendant 3 heures à partir d'aujourd'hui autour d'Alep, ville syrienne devenue l'épicentre des combats opposant le régime aux rebelles. Jacques Aristide.
Pour le général Sergueï Routskoï de l'état-major russe, cette suspension partielle va permettre de garantir l'entière sécurité des colonnes de véhicules entrant dans Alep. Pendant cette fenêtre humanitaire, dit-il, il n'y aura pas d'activité militaire, de frappes aériennes et tirs d'artillerie entre 10h et 13h heure locale. Toujours d'après le général Routskoï, les pertes des rebelles à Alep s'élèvent à plus de 1000 morts. Il appelle ceux qui souhaitent rendre les armes à emprunter l'un des 7 corridors humanitaires mis en place par le régime de Damas et son allié russe. Aux yeux de l'ONU, qui réclame depuis lundi une trêve humanitaire de 48 heures chaque semaine pour ravitailler les civils, ces 3 heures quotidiennes sans frappe ne seront cependant pas suffisantes pour aider tous ceux qui en ont besoin. Stephen O'Brien, patron des opérations humanitaires de l'ONU, a maintenu que pour réussir à aider tout le monde, il faut 2 voies de circulation et plus de temps pour qu'un nombre suffisant de camions puissent entrer dans la ville. En début de semaine, Washington avait réclamé que l'aide parvienne à Alep avant que de nouveaux pourparlers de paix soient envisagés.
Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
À À présent, le journal des Jeux Olympiques sur VOA Afrique avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
L'Afrique a le sourire ce matin avec 3 nouvelles médailles à Rio.
Honneur aux dames, exceptionnelle, la Tunisienne Inès Boubakri qui décroche le bronze en fleuret. L'escrimeuse a battu la Russe Aïda Chanaïeva cette nuit lors de la petite finale 15-11. Boubakri est entrée dans l'histoire de l'escrime en étant la première athlète africaine à décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Retour sur cette médaille de légende avec Thierry Kamboundi de Top Congo FM.
Historique ce mercredi 10 août 2016, première médaille olympique dans une discipline dont les tableaux de récompense n'affichaient jusqu'ici essentiellement que des noms occidentaux. L'héroïne du jour, c'est la Tunisienne Inès Boubakri. Elle a remporté la médaille de bronze en battant la Russe Aïda Chanaïeva 15-11 lors de la petite finale ce mercredi à Rio. « Je mérite cette médaille et je suis fier », a-t-elle réagi après avoir décroché cette récompense qu'elle dédie à la femme tunisienne et à toutes celles qui se battent pour la liberté en Tunisie comme ailleurs. Sixième aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, où elle avait été éliminée en quart de finale, Inès Boubakri, 11 fois médaillée d'or lors des championnats africains, a cette fois-ci atteint son objectif et réalisé son rêve. Ce sont les Jeux Olympiques, c'est exceptionnel cette médaille, elle n'a rien à voir avec les autres, a-t-elle souligné à la presse francophone qu'il a interrogée à la zone mixte juste après son match. Et de conclure, je cite, « Je vous assure, je veux la fêter celle-là. » Fin de citation. Ben vas-y championne, tu le mérites bien. Rio, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
A vida não é brincadeira, não marco bobeira, eu cheguei pra ficar. Acredito que tudo tem hora, tem o seu momento e tem o seu lugar. Pois errar faz parte, evoluir é arte, basta acreditar, depende de você.
L'haltérophilie égyptienne est aussi à l'honneur ce matin.
Mohamed Mahmoud remporte la médaille de bronze en haltérophilie chez les moins de 77 kilos. Sa compatriote, l'égyptienne Sarah Ahmed, remporte la médaille de bronze chez les moins de 69 kilos. Au total, ce matin, l'Afrique compte 5 médailles, Idrissa.
La journée de mercredi n'a pas souri à tous les athlètes africains, pourtant.
En volleyball, les Camerounaises battues 3-0 par la Russie. Autre sport collectif, le basketball féminin. Et les Sénégalaises enregistrent une troisième défaite honorable, celle-là contre le Canada 58 à 68. En football, les Algériens, déjà éliminés, affrontaient le Portugal, match nul un partout. Le Nigeria battu par la Colombie 2-0, mais les Super Eagles se sont déjà qualifiés. Ils joueront samedi leur quart de finale. Quant à l'Afrique du Sud, elle dit adieu à la compétition après son match nul un partout contre l'Irak. Les Angolaises en handball ont été battues 20 à 30 par la Norvège. Au tir à l'arc, élimination de l'Ivoirien René Philippe Kwasi. En judo, chez les moins de 90 kilos, le Béninois Dosu Yovo a été éliminé en huitième de finale par le Suédois Marcus Niemann. Et dans le même tournoi, le Congolais qui concourt pour l'équipe des réfugiés, Popol Misenga, il a gagné un combat avant de tomber en huitième de finale. En sabre, le porte-drapeau de la délégation béninoise, Yemi Geoffrey Apiti, a été éliminé d'entrée. En boxe, Diva Forele Malonga Zalamou pour le Congo-Brazzaville, battu par un Ouzbek chez les moins de 64 kilos. Quant à Arcangeline Fuoji Songbu, l'haltérophile camerounaise, elle a terminé dernière de sa compétition avec 187 kilos portés.
Et la pluie a été la grande gagnante hier à Rio.
Oui, les 25 matchs du tournoi de tennis de Rio ont été reportés à aujourd'hui en raison de la pluie. Le troisième tour du simple messieurs, les demi-finales du double messieurs, les quarts de finale du simple dames ainsi que le premier tour du double mixte étaient initialement prévus hier.
En basket, les Américains ont eu chaud.
Oui, les Américains ont dû s'employer pour battre l'Australie 98 à 88 dans le troisième match du tournoi olympique. L'Australie était en tête de 5 points à la mi-temps et les deux équipes étaient à égalité au début du dernier quart-temps. Carmelo Anthony a sauvé les États-Unis en inscrivant 31 points.
À suivre ce jeudi.
En boxe, le Camerounais Smaila Mahaman chez les Walter. Sur les tatamis, en moins de 78 kilos, la Camerounaise Mbala Atangana Hortense Vanessa. A noter également la présence de la Gabonaise Massouz Sarah Myriam. Chez les hommes, catégorie des moins de 100 kilos, le Malien Ayouba Traoré. Et puis sur le parquet, les basketteurs nigérians face à l'ogre espagnol. On rappelle Idrissa qu'au classement des médailles ce matin, les États-Unis sont toujours premiers devant la Chine et le Japon.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La Minute Éco, John Linden.
Plus de 80 milliards de francs CFA, c'est ce qu'a coûté la construction du nouveau port minéralier en périphérie de Libreville, lequel a été inauguré hier par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Le nouveau port, déjà en service, comprend un terminal minéralier, notamment destiné au manganèse, dont le pays est le deuxième producteur mondial, et un terminal polyvalent pour le stockage et le transit d'agrégats. Au Cameroun, des cargaisons de marchandises en provenance de l'Union européenne ont débarqué au port de Douala et ont été validées par le système, attestant de leur éligibilité au régime préférentiel des accords de partenariat économique, soit un abattement de 25% sur les droits de douane. L'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne est entré en vigueur le 4 août dernier, signé en janvier 2009. Il permettra de créer à terme une zone de libre-échange entre les deux parties. Air France lancera une nouvelle ligne entre Paris et Accra au Ghana. La compagnie desservira l'aéroport d'Accra-Cocota trois fois par semaine au départ de Roissy Charles de Gaulle. Le premier vol est prévu le 29 février 2017.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Maintenant, nos dossiers du jour. Une coalition de 33 organisations de la société civile de la RDC demande à la MONUSCO, mission des Nations Unies, de retirer tout soutien à la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Elle reproche à la CENI d'avoir entamé les opérations d'enrôlement d'électeurs pour une durée d'au moins un an, éloignant ainsi la perspective de la tenue de l'élection présidentielle avant la fin de 2016, comme le prévoit la Constitution. Eddy Sango a joint à Kinshasa le coordinateur de la coalition, Georges Kapiamba.
Selon les prévisions annoncées par son président, M. Corneille Nanga, ces opérations vont s'étendre jusqu'au mois de septembre 2017. Et ce qui est encore grave, c'est que nous avons constaté, reçu même les informations de nos collègues des ONG locales, selon lesquelles même les enfants de 16 ans, c'est-à-dire de moins de 18 ans, seraient aussi enrôlés au seul motif que dans 2 ans, ils pourront être en mesure de voter parce qu'ils atteindront 18 ans.
Vous reprochez à la CENI d'avoir commencé à enrôler les électeurs, mais l'enrôlement en soi permettra d'organiser l'élection.
Nous reprochons à la CENI le fait d'avoir commencé les opérations d'enrôlement sans avoir préalablement rendu public un calendrier électoral. Parce que les opérations d'enrôlement, comme les autres aussi, de fiabilisation du fichier, ce sont des opérations qui doivent être prévues dans un calendrier. Et le calendrier lui-même doit respecter les prescrits de la Constitution. Mais en les étalant jusqu'en septembre de l'année 2017, il est clair que la CENI, comme le gouvernement, ne veulent pas respecter la Constitution. Aussi, la CENI ne s'est pas expliquée à l'opinion nationale et internationale pourquoi a-t-elle choisi de les étendre sur plusieurs mois, au-delà même de 6 mois qui sont les délais raisonnables qui a été reconnu comme exemple tant par les experts de l'OIF et les experts des organisations de la société civile. Dans ce cas, la MONUSCO doit arrêter son soutien, sinon elle va se rendre complice de la violation de la Constitution et par ricochet aussi de la résolution 2277 du Conseil de sécurité.
Si la MONUSCO retire son soutien à la CENI, quelle alternative proposez-vous alors?
Ça va pousser tous les acteurs à se retrouver rapidement autour d'une table pour statuer sur un calendrier électoral consensuel.
C'était Georges Kapiamba, coordonnateur de la coalition de 33 organisations de la société civile.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Burundi, les autorités ont fermé 20 bureaux de change et arrêté plusieurs cambistes. Ils vendraient les devises à des prix non reconnu par la BRB. La dépréciation de la monnaie a également un impact sur les importations et exportations des produits. Reportage de Christophe Kurunziza à Bujumbura.
Depuis deux mois, les prix de devises étrangères comme le dollar américain, l'euro ou la livre anglaise ne cessent d'augmenter au marché noir, tandis que sur le taux officiel, il est estimé à 1650 francs burundais pour un dollar. Seuls les importateurs des produits stratégiques à l'étranger peuvent disposer d'une enveloppe consistante pour importation, mais les autres importateurs moyens ne peuvent pas disposer de plus de 50 000 dollars américains par an. La pénurie de devises étrangères est perceptible à Bujumbura et à l'intérieur du pays. Ce pharmacien dit que les choses se compliquent, mais reste quand même confiant. Témoignage.
J'achète chez les grossistes, lesquels nous disent qu'ils n'ont pas de devises sur le marché. Dans les pharmacies, nous avons de plus en plus des ruptures de certains médicaments. La situation continue à s'empirer jour par jour. Je pense qu'avec l'intervention des autorités ces derniers jours, je pense que nous allons avoir peut-être allégé mieux.
Le gouverneur de la Banque centrale pointe du doigt les cambistes ambulants et les bureaux de change d'être la source de cette dépréciation de la monnaie burundaise, Jean Chiza.
Les bureaux de change ne doivent pas réguler le commerce. Leur rôle, c'est de donner de petits montants en devises. Ils utilisent l'argent en provenance des touristes qui viennent au Burundi, mais qui ne peuvent pas aller à la Banque centrale, mais aussi les fonctionnaires qui viennent en mission de l'étranger ou les voisins congolais ou tanzaniens qui viennent au Burundi pour acheter tel ou telle marchandise.
Mais cet échangeur de devises affirme que la balle est dans le camp de la Banque centrale et refuse de disponibiliser les devises aux clients.
La Banque centrale a donné une instruction disant que nous ne devons plus aller chercher des devises à la Banque de la République. Mais il y a des personnalités haut placées qui vont chercher même 3000 dollars sans autorisation. Mais la BRB ne donne jamais de tels montants aux propriétaires des bureaux d'échange. Il faut donc que la Banque centrale étudie les possibilités pour offrir des devises aux bureaux d'échange. Ce n'est pas notre faute.
Depuis plusieurs mois, l'Union européenne, qui donnait plus de la moitié du budget du pays, a suspendu sa coopération pour pousser les autorités burundaises à dialoguer avec l'opposition. Dès lors, les devises se raréfient et l'économie burundaise ronronne, selon les spécialistes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Niger, dans le cadre du processus de décentralisation, l'État décide de transférer certaines compétences aux municipalités. C'est ainsi qu'en juillet dernier, le ministère de l'Éducation a annoncé que dorénavant, le recrutement et la gestion des enseignants contractuels se feront par les mairies. Une annonce qui a provoqué un tollé chez les syndicats d'enseignants. Reportage d'Abdelrazak Idrissa, notre correspondant à Niamey.
C'est un acte provocateur et nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre jusqu'à la dernière énergie.
La décision est fortement contestée par les syndicats, notamment celui des enseignants contractuels. Cette catégorie d'enseignants, bien que n'étant pas des agents titulaires de l'État, est en effet jusqu'ici régie par le statut général de la fonction publique. Moukaïla Halidou est le secrétaire général du syndicat.
Comment comprendre que le ministre de l'enseignement primaire, de surcroît docteur de son État, puisse prendre un arrêté pour abroger une loi de la République du Niger. Car pour rappel, depuis le 23 juillet 2007, les contractuels sont régis par le statut général de la fonction publique. Nous voudrions demander au ministre Martin que s'il se trouve dans les nuages, qu'il revienne sur terre. Condamne la démission du président de la République vis-à-vis de l'école publique nigérienne en nommant à la tête du ministère un stagiaire en administration. Informe l'opinion nationale et internationale que le SINASEB se donnera tous les moyens nécessaires afin de faire échec à la banalisation de la fonction enseignante.
Les syndicats d'enseignants et l'opinion de façon générale se demandent aussi comment les communes, pas vraiment viables financièrement, peuvent faire face à de nouvelles charges qu'impliquera cette décision. Face au tollé que sa mesure a suscité, le ministre Daouda Mamadou Marté est sorti s'expliquer.
L'État transfère les compétences et les ressources aux communes. Il ne s'agit pas, comme je l'ai entendu certains dire, qu'on va affecter les enseignants contractuels aux communes et que c'est aux communes de les payer. Si je veux même de leur logique, même si c'est ça, est-ce que moi, ministre de l'enseignement primaire, j'ai le pouvoir de demander à une commune de payer mes enseignants? L'article 5 de cet arrêté et conformément au décret dit, la loi de finances prévoit chaque année les ressources financières nécessaires au recrutement et à la gestion des enseignants contractuels. C'est un processus qui va se poursuivre. La commune est responsable du recrutement des enseignants contractuels dans leur zone de compétence. Ça signifie qu'à l'avenir, quand toutes les dispositions seront mises en place, c'est à la commune qu'on va transférer le recrutement des contractuels. C'est-à-dire que la responsabilité politique, c'est le maire, mais la responsabilité académique et professionnel, c'est l'inspecteur.
Les contractuels représentent plus de la moitié du corps enseignant nigérien. Ils sont payés sur le budget de l'État, mais accusent régulièrement des retards pour entrer dans leurs droits. Beaucoup d'analystes affirment que cette décision de conférer leur recrutement et leur gestion aux communes risque de compliquer davantage la situation. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Présidentielle américaine 2016, Donald Trump a accusé hier soir le président Barack Obama d'avoir créé le groupe État islamique et sa rivale démocrate à la présidentielle Hillary Clinton d'avoir co-créé l'organisation djihadiste. Lors d'un meeting en Floride, M. Trump a d'abord accusé Barack Obama d'avoir semé le chaos au Moyen-Orient, puis estimé que le groupe terroriste faisait honneur au président Obama. Fin de citation. Le candidat républicain avait, dans la journée, essuyé une pluie de critiques pour de précédents propos interprétés par la presse comme une incitation à la violence contre Mme Clinton. Pour cette dernière, Donald Trump avait dépassé les bornes. Bien qu'il perde du terrain, Donald Trump n'entend pas changer de stratégie, celle qu'il a si bien servi dans les primaires. Au micro de Timothée Donangmaï, le professeur Emiliano Viano de American University à Washington.
Le candidat républicain, Donald Trump, ne l'a jamais caché avant même le début de sa carrière politique. Pour lui, il n'y a pas de mauvaise presse. C'est une ancienne expression américaine que c'est mieux si les personnes parlent mal de toi que s'il y a du silence. Par exemple, lorsque sa femme Melania fut accusée d'avoir plagié un discours de Michelle Obama, il se contente de démentir, de dire que c'est la faute des médias, de se poser en victime et de profiter des projecteurs médiatiques qui sont braqués continuellement sur lui. On parle beaucoup maintenant de cette accusation que peut-être il a incité quelqu'un à tuer Hillary Clinton, disant qu'elle va éliminer le deuxième amendement de la Constitution. Comme à chaque déparage contrôlé de Donald Trump, la classe politique et notamment les républicains modérés se sont épuisés contre une sortie qu'ils pensent être inacceptable. Et comme à chaque fois, l'équipe de campagne républicaine a éludé sur le fond, jurant que, par exemple, la phrase était mal interprétée, que ça rassemblait surtout une blague, que la presse n'avait décidément aucun humour.
Aucun sens de l'humour.
Naturellement pas. La presse, dans son ensemble, justement, n'est pas totalement à l'aise devant cette énième politique.
Selon les derniers sondages, Mme Clinton mène Trump d'environ 10 points. Est-ce que c'est gagné pour l'ancienne secrétaire d'État?
Elle est avant Trump dans les sondages nationaux. Et naturellement, il y a encore beaucoup de temps entre aujourd'hui et novembre. Il peut se passer tout dans ces 3 mois qui nous séparent de l'élection. Mais il semble qu'il y a de plus en plus de gens, même républicains, qui pensent qu'ils ne peuvent pas voter pour Trump. Ça ne signifie pas qu'ils vont voter pour Hillary Clinton. Peut-être ils vont jeter son vote en votant par le candidat du Parti vert, par exemple, ou d'autres partis pas importants de tout dans la politique des États-Unis.
C'était le professeur Emilio Viano, enseignant de sciences politiques à American University de Washington. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.